Bonjour à toutes et à tous. Je vous demande de prendre avec moi dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, on va lire à partir des versets 22 jusqu'à 33. Matthieu 14, 22 à 33. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus entendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » La parole de Dieu. Et cette histoire dans le Nouveau Testament de Jésus marchant sur la mer de Galilée est racontée par les écrivains de Matthieu, Marc et Jean. Bien que les trois passages de Matthieu, Marc et Jean puissent sembler avoir des contradictions pour nous, nous pouvons être sûrs qu'il n'y a pas de plus cela, il n'y a pas, et de plus, cela prouve la véracité de la parole de Dieu racontée par trois hommes différents, de différents horizons de la vie tels qu'ils les voyaient. Luc n'était pas un disciple de Jésus pendant son ministère terrestre, et son évangile ne mentionne pas Jésus marchant sur l'eau. Cela signifie que l'histoire de Jésus marchant sur l'eau est enregistrée dans les trois rapports par des témoins oculaires, ce qui authentifie sa véracité. C'est important parce que marcher sur l'eau est un miracle. Et pour notre lecture aujourd'hui, nous utiliserions le passage de Matthieu pour sa particularité, car seul l'évangéliste Matthieu raconte que Pierre marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Quand le monde a été stupéfait que l'homme ait marché sur la lune, quelqu'un a fait remarquer que le fait que Jésus, le Fils de Dieu, marchant sur cette terre était une plus grande merveille. C'est vrai. Et quand nous voyons ici que Pierre marchant sur l'eau est une merveille que le monde n'a jamais connue. Le verset 22, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Ce matin, nous allons étudier un petit passage qui se trouve dans le 14e chapitre de l'évangile de Matthieu. Et c'est la raison pour laquelle on trouve le mot aussitôt au commencement de ce passage. Jésus venait d'accomplir un grand miracle en nourrissant une multitude de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sur les rives de la mer de Galilée. Il avait guéri la malade et prêché avant de les nourrir. Si vous voyez de 13 à 21, jamais aucun homme n'avait vu de telles choses se produire. Et avant cela, nous avons lu que Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, a été décapité par Hérode, dans la première partie de ce chapitre. Cette série d'événements n'est qu'un autre exemple que la vie de Jésus sur cette terre était intense. Il est important de situer le passage dans son contexte pendant que nous lisons la Bible dans nos langues. Je pense que dans chaque langue que nous pouvons parler ici, dans nos langues, nous avons les mots qui s'appellent le mot interrogatif, comme quand, quoi, qui, où, comment et pourquoi. On appelle ça le mot interrogatif. Donc, poser de bonnes questions nous conduirait à une meilleure compréhension des Écritures. Chaque fois on ouvre la Bible, on devrait poser des questions. C'est quand, quoi, qui, où, comment et pourquoi. Et quand, la parole nous dit ici dans ce passage, aussitôt après. Et quoi, donc on peut dire après quoi, après qu'il a fait ce miracle de nourrir une grande multitude avec simplement 5 pains et 2 poissons. C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus qui a nourri une grande multitude de peuples. Et où? Dans les rives de la mer de Galilée. Et comment? Il a fait par un miracle. Et si nous on demande pourquoi il a fait cela, pour manifester qu'il est le Fils de Dieu. C'est toutes ces choses, il manifeste qu'il est le Fils de Dieu. Je vous prie de revenir vers notre passage, le verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Pendant son ministère, Jésus était suivi par une multitude de foules partout. Il allait. Regardez les versets 13-14 de chapitre 13-14. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Il guérit les malades. La parole de Dieu nous dit que Jésus, il était un homme de douleur et habitué à la souffrance. Il dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il était ému de compassion. Il avait ses propres douleurs. Il était lui-même, il était dans la tristesse quand il a entendu que son cousin Jean-Baptiste, il était tué par Hérode. Mais quand il a vu le foule, il était ému de compassion pour les gens, mais en même temps, il cherchait le moment de communion avec le Père. Ce que nous voyons dans ce passage. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et a passé avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Cela nous semble étrange quand nous lisons que Jésus a obligé ses disciples à prendre le bateau et aller à la mer. Parce que nous ne savons pas ce qui nous attend. On n'a pas encore lu des autres... Nous pouvons pas savoir ce qui se passe dans le bateau. Bien sûr, lui-même avait besoin d'être seul avec son Père Céleste. Il avait ces moments de solitude pour être seul avec son Père, pour prier à son Père. Il ne l'a pas révélé à ses disciples quand il les a envoyés. Certes, renvoyer une telle multitude de personnes qui venaient d'être nourries par un grand miracle n'est pas une chose facile. Je ne sais pas pourquoi Jésus l'a c'est plus facile pour renvoyer tous ces gens avec ses disciples. Mais il envoie ses disciples d'abord. Après, lui seul, il dit que je vais rester pour renvoyer ces personnes. Mais ce que nous comprenons en lisant les versets suivants, c'est qu'il est envoyé dans la nuit orageuse au milieu de la mer. Il a envoyé les disciples dans la nuit orageuse au milieu de la mer. Nous pouvons avoir une meilleure vision des choses lorsque nous lisons le verset suivant. Le verset 23, « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. » Comme le soir était venu, il était là seul. De quoi priait-il? Pourquoi il priait-il? Aurait-il pu prier pour ses disciples? Nous ne le savons pas, mais au milieu de la tempête, alors que les vagues débordaient sur le bord du bateau des disciples et que les vents poussaient les 12 dans toutes les directions, sauf dans la direction qu'ils voulaient prendre de leur point de vue, il se peut que Jésus les ait abandonnés ou complètement oubliés. La première fois que les disciples ont été pris dans une tempête, les 12 se sont tournés vers Jésus et ont demandé, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Nous pouvons lire dans Matthieu 4, 38, « Où était Jésus quand il avait le plus besoin de lui ?» Jésus était avec eux dans le bateau. Il réveille Jésus, il dit que, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Nous aussi, nous pouvons ressentir cela lorsque nous sommes pris au milieu de plus grandes tempêtes de la vie, ou que nous avons l'impression de commencer à couler. Dieu nous a-t-il oubliés ou abandonnés ? Se soucie-t-il, même si nous coulons ou nous noyons, il est facile de devenir craintif et de perdre la foi lorsque nous sommes fatigués, frustrés ou seuls. Mais pendant que les disciples se battaient pour rester à flot, non seulement Jésus priait, mais il voyait leur lutte. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Il voulait les dépasser. Il n'a jamais perdu de vue ce qu'il aimait. Plus important encore, il avait un plan pour les délivrer de ce qui semblait probablement être leur nuit la plus sombre, et a tenu sa promesse. Jésus savait ce que ses disciples rencontraient sur la mer de Galilée et les envoyait quand même. Qu'est-ce que cela devrait nous dire sur nos luttes actuelles? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Luc 22, 31-32. Le Seigneur priait pour ses disciples. Si le Seigneur il a envoyé ses disciples dans la mer, bien qu'il savait qu'il y avait une tempête, il aura une tempête dans la mer, il aura un orage, mais il l'a envoyé, mais s'il était dans la montagne, c'est pour prier pour ses disciples. Le Seigneur priait pour ses disciples, il priait probablement pour Simon-Pierre. Il savait qu'il avait un peu de foi, une foi vacillante, mais plus que les autres disciples en tout cas. Dans la parole, nous lisons, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume. Oui, Jésus prie pour nous. Dans l'une des heures les plus sombres de l'histoire d'Israël, le prophète Jérémie a écrit que Dieu connaît les plans qu'il a pour nous. Jérémie 29, 11, je vais lire, « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Se pourrait-il que parfois les plans de Dieu pour nous incluent les tempêtes de la vie? Parce que parfois nous pourrons pleurer, on peut demander, on peut poser les questions, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Mais le Seigneur il a un plan pour nous, pour chacun. Quand Jésus rencontra les disciples sur la vague, il dit immédiatement, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus n'a jamais été aveugle ou éloigné de la situation de ses disciples. Jésus savait exactement où il en avait et savait quand il interviendrait et comment il le ferait. Il n'était jamais loin et ne détournait jamais les yeux de ses disciples. Il en a de même pour nous aujourd'hui. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Regardez maintenant le verset 24 de ce chapitre 14. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraire, car le vent était contraire. La mer de Galilée est l'un des plans d'eau le plus familier de la Bible, en particulier pour le lecteur d'Évangile. Beaucoup d'événements dans la vie terrestre de Jésus-Christ ont eu lieu dans la région de Galilée et les régions entourant la mer de Galilée. On peut même jusqu'à là, avant qu'il les quitte, hein, après sa résurrection, il se rencontre au bord de la mer de Galilée, avec un petit déjeuner, avec le poisson. La mer de Galilée est un vaste étendue d'eau douce située dans la vallée de Jourdain, à environ 90 kilomètres au nord de Jérusalem. Longue d'environ 20 kilomètres et large de 12 kilomètres, à son point le plus large, près de Magdala, la mer ressemble à une forme d'une harpe. En raison des caractéristiques géologiques de part et d'autre de la mer de Galilée, des tempêtes soudaines et violentes se produisent régulièrement sur ces eaux. Malheureusement pour les disciples, un voyage en bateau à travers la mer de Galilée qui est réduit prendre une heure ou deux au maximum, a duré de 6 à 12 heures à cause du vent et de la météo. Et au moment où Jésus les a rencontrés sur l'eau, ils n'avaient même pas atteint le centre du lac. Mais en fait, c'est un lac. On appelle la mer de Galilée, mais c'est un lac entouré par la terre. L'évangile de Marc nous dit même que Jésus, marchant à pied, aurait pu croiser les disciples dans leur bateau. Jésus marchait plus vite qu'il ne ramait. Les disciples avaient ramé pendant des heures et n'étaient presque arrivés nulle part. Pouvez-vous imaginer la fatigue et la frustration qui ont dû installer pour ce groupe de pêcheurs professionnels, fatigués, qui ne pouvaient plus compter sur leur force, leurs compétences ou leur expertise pour les aider à traverser cette tempête particulière. Combien de fois Pierre, André, Jacques et Jean ont-ils rencontré une situation sur la mer de Galilée qu'ils ne pouvaient pas gérer? C'était peut-être là l'essentiel. Pendant des heures, les disciples s'étaient épuisés à essayer de sortir des ennuis. Ce n'est qu'après l'arrivée de Jésus qu'ils ont trouvé un répit de leur tempête. Nous trouvons l'intervention de Dieu dans nos vies quand nous avons épuisé tous nos moyens. Quand il n'y a plus rien à faire. toute notre énergie et notre force ont été dépensées. Vous souvenez-vous de la femme qui a été guérie par Jésus? Elle avait tout essayé et essayé pendant 12 ans. Elle n'avait plus rien d'autre que sa foi. En Marc 5, 25 à 29, je vais lire. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte du sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle n'avait plus rien que sa foi. Quand on est épuisé, quand on peut rien faire, quand les hommes ils nous abandonnent, et quand nous savons où tourner, mais il faut regarder sur Jésus. Si nous dressions une liste pour voir l'intervention de Dieu dans la vie des hommes et des femmes dans la Bible, ce serait exhaustif. Rappelez-vous Naaman, le général syrien qui était lépreux. Il a tout essayé. Il avait le pouvoir, il avait l'argent, il avait une armée, il avait le pays derrière lui. Mais il n'a pas pu trouver la guérison pour sa maladie. Et nous connaissons l'histoire de Joseph, le fils de Jacob, dans la prison d'un pays étranger. Il était oublié par tout le monde, par sa famille, par ses frères. Il était dans la prison. Et même la personne qui a promis quelque chose, il avait oublié Joseph. Et Jonas, dans le ventre d'un gros poisson, il était tout seul. Mais Dieu avait son œil sur ces personnes. Abraham et Sarah, ils n'avaient aucun espoir d'avoir un enfant. La parole nous dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Romains 5, 6. Maintenant, nous allons passer à verset 25. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Il y a plusieurs points importants à reconnaître à propos de ce miracle. Tout d'abord, Matthieu nous dit que le bateau était déjà à une distance considérable de la terre, secoué par la vague, parce que le vent était contre lui. Au cours de la quatrième veille de la nuit, Jésus sortit vers eux, marchant sur le lac. Bien qu'il devrait parcourir une courte distance, la tempête fut si violente que malgré tout leur effort pour contrôler leur bateau, la tempête les avait poussés à près de 4000 au milieu, la tempête les avait poussés au milieu de la mer. Étant la quatrième montre de la nuit, le quatrième temps pour les Juifs, c'est entre 3h et 6h du matin, la quatrième heure. Ils ramaient et se tendaient à la rame depuis près de 9h. Ils étaient totalement épuisés. Et Jésus vint toujours à nous dans la tempête de la vie. Cela rappelle la parole de Dieu à Isaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne submergeront point. Le Seigneur ne peut pas venir au moment où nous pensons qu'il devrait venir, parce qu'il sait quand nous avons le plus besoin le plus besoin de lui. Jésus avait attendu que le bateau soit aussi loin que possible de la terre. Quand tout leur espoir avait disparu, essentiellement, Jésus testait la foi des disciples et cela signifiait enlever tout accessoire humain, tout effort humain. Et on peut poser cette question, pourquoi Jésus a-t-il marché sur l'eau? Montrer à ses disciples que la chose même qu'ils craignaient, la mer déchaînée et bouillonnante, n'était qu'un ensemble de pas pour qu'ils viennent à eux. Souvent, nous craignons les expériences difficiles de la vie, telles que la maladie, la perte d'être cher et les difficultés financières, pour découvrir que ces expériences peuvent rapprocher Jésus de nous. Et parfois, on pense que nous sommes en train de couler à cause de nos problèmes. Mais tous ces problèmes, c'est rien pour lui. Peut-être c'est des montagnes pour nous, mais c'est rien du tout pour le Créateur de l'univers. Nos maladies, c'est lui qui a créé le corps humain. Donc, il connaît toutes choses. Mais nous devons nous demander pourquoi les disciples n'ont pas reconnu Jésus. La réponse est qu'ils ne cherchaient pas. Mais juste avant, Jésus a fait un grand miracle. Il a nourri le plus de 5000, mais ils ont tout oublié. Ils ont tout oublié. Ils ne cherchaient pas Jésus dans cet endroit. Au milieu de la mer, ils ne cherchaient pas Jésus. S'il avait attendu par la foi, il l'aurait connu instantanément. Au lieu de cela, ils ont sauté à la fausse conclusion que son apparence était celle d'un fantôme. Le fait est que la peur et la foi ne peuvent pas cohabiter dans le même cœur. La peur et la foi ne peuvent pas vivre ensemble dans le même cœur, car la peur aveugle souvent les yeux sur la présence du Seigneur. Si on a peur, on ne peut pas voir la main de Dieu. Quand les disciples ramaient fort contre les vagues et le vent dans les mers, pendant leur maître priait pour eux, les disciples ignorants criaient parfois, « Maître, ne sais-tu pas que nous périssons ?» Mais il oublie que le maître il était en train de prier pour eux. Il ne savait pas, il était ignorant que le maître il était en train de prier pour eux quand il ramait fort dans la mer. Et nous aussi, nous pouvons parfois oublier. On pense que Dieu nous oublie. Mais la parole de Dieu nous dit très clairement, je vais lire Hébreux 4, 14 à 16, Hébreux 4, 14 à 16, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, un médiateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Quel beau verset pour nous consoler, pour nous rassurer. Il était tenté dans toutes choses. Il n'y a pas de situation que le Seigneur ne peut pas comprendre. Nous ne traversons pas des situations où le Seigneur n'est pas déjà passé par. Il a déjà connu. Il était dans la chair humaine. Donc, il a connu toutes choses. Donc, il peut nous secourir dans nos besoins. Et le verset 26 de chapitre 14, « Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Imaginez, il y a 12 hommes dans la barque. Ils voient quelque chose, une apparition. C'était le Seigneur, mais il avait tellement peur, il pousse le cri. Il criait fort dans la mer. Il était tellement tétanisé, il tremblait du peur. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal pour des disciples de Jésus-Christ qui étaient avec lui? Le verset 27, Jésus leur dit, aussitôt, immédiatement, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Regardez le verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Elle dit, viens. Il n'y avait pas 12 hommes dans la barque, mais il y avait un seul homme. Pierre était Pierre. Pierre, il était, Pierre, il peut, entrer dans la porte fermée. Il est courageux, mais parfois il réfléchit pas trop. Mais il avait la foi. Pierre, il avait la foi que les 11 autres, ils n'avaient pas. Et donc Pierre, il dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Mais quelle parole audacieuse. Il a reconnu que c'était le Seigneur. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il n'a pas pensé que, est-ce que c'est possible pour marcher sur la mer, sur l'eau? Il n'a pas pensé, il n'a pas attendu un instant pour réfléchir. Logiquement, est-ce que c'est possible que je marche? Il n'a jamais marché sur l'eau. Pierre, il n'a jamais marché sur l'eau. Ni les disciples, ils ont vu que Jésus, il pouvait marcher sur l'eau. Mais quand Pierre, il voit le Seigneur marcher sur l'eau, il dit que, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. La foi, ça peut dépasser toute compréhension humaine. La logique humaine s'arrête où la foi, il commence à travailler. On peut avoir la logique, on peut avoir la science, mais c'est vrai que le Seigneur, il a marché sur les eaux. Et Pierre, il a cru véritablement que lui aussi, il peut marcher sur l'eau. Mais c'est une foi admirable. Mais souvent, on peut se moquer de Pierre, disant que Pierre, il a marché, mais après, il a douté, il a eu peur, il a plongé dans l'eau. Ça, c'est secondaire. Premièrement, Pierre, il avait plus de foi que les 11 autres. Il n'y avait aucun autre disciple qui avait le courage de sortir de la barque. Et seulement Pierre, il dit au Seigneur, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il a cru sur la parole de Dieu aussi. Il a cru sur la parole de Dieu. Et tout de suite, le Seigneur, il dit, dans le verset 29, « Viens. » La foi et la peur ne peuvent pas vivre ensemble. Tant que la foi est là, la peur ne peut pas entrer. Quand la foi s'en va, la peur entre immédiatement. Ici, nous avons les 12 disciples dans le bateau. Tout le monde voit Jésus marcher sur la mer. Ils pleurent de peur. Ils le prennent pour un fantôme. Et immédiatement, quand ils reçoivent l'assurance du Seigneur, Pierre lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi. » Et le Seigneur dit, « Viens. » Le verset 29, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. S'il s'arrête ici, quelle merveille! Pierre, véritablement, il a marché sur les eaux. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ce que la foi, il peut opérer dans notre vie. Il nous fait sortir de notre n'importe quel lieu. Ça peut être un barque, ça peut être un gouffre. Vous savez, un homme de Dieu s'appelle Élie. Il s'est caché dans une caverne. parce qu'il avait peur de Jézabel. Parce que elle a promis qu'elle va le tuer. Un homme qui a connu une grande chose sur le mont Carmel, un moment de gloire sur le mont Carmel. Ici, on trouve dans une grotte en train de trembler du peur. Et la foi peut faire sortir, la foi peut nous faire sortir du lieu où nous pouvons se trouver. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus entendit la main et saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Donc, Pierre, il a véritablement marché sur les eaux, ça c'est vrai. On ne peut pas douter de cela. Tous les disciples sont vus, et Jésus l'a vu, que Pierre il marchait sur l'eau. Mais pourquoi il a il a plongé dans l'eau. Il n'a pas pu marcher. Le verset 30, nous voyons que voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il se cria, « Seigneur, sauve-moi !» Donc, quand nous voulons marcher vers le Seigneur, avec le Seigneur, nous avons besoin de la foi. C'est avec la foi qu'on peut marcher dans notre vie chrétienne. Mais pour marcher par la foi, nous devrions avoir nos yeux fixés sur le Seigneur, pas sur autre chose. Pas sur le vent, pas sur la vague. Oui, certes, les choses qui nous entourent peuvent nous faire peur. Les choses qui nous entourent. Tout simplement, vous regardez la télé, le journal pendant une heure, tous les jours. On peut avoir assez de peur. Il n'y a rien qui marche. Il y a le feu de forêt, l'économie qui ne marche pas. Il parle que de meurtre et de péchés, des choses terribles. Hein? Il n'y a rien qui marche dans le monde. Et si nous allons écouter et regarder d'autres choses, et nous ne pouvons pas marcher avec le Seigneur, notre foi va s'arrêter très vite. Hein? On va avoir simplement peur. Mais le Seigneur n'a pas nous demander de voir autre chose. De garder les yeux sur autre chose. Vous vous souvenez dans je pense que c'est 1 Roi, chapitre 17, l'histoire de David et Goliath. L'histoire de David et Goliath. Goliath, un géant, il vient, tous les jours, il criait, il demande qui peut venir battre avec moi parmi les enfants d'Israël. Il y avait des armées philistins. Et de l'autre côté, il y avait l'armée d'Israël. Et chaque fois, cet homme, il vient challenger, il vient crier comme ça. Et il voyait Goliath. Et ils avaient tous eu peur. Ils avaient tous eu peur. Et ils tremblaient de peur. Il n'y avait personne qui peut aller battre avec cet homme. Et parce que ce qu'on appelle lavage de cerveau, tous les matins, il entend, tous les matins, ce géant, il sort, il vient, il crie, son image est terrible, son physique, il est terrible, donc il n'y avait pas un homme qui peut aller battre avec ce géant. Donc, ils avaient tous peur. Mais David, comparativement, c'est un petit. Hein, même décrit par son père, il dit que le petit, il est en train de paître le troupeau. Dans le désert. Mais David, quand il vient, il n'a pas entendu ce que le Philistin il a dit et tout cela. Il n'a pas subi ce lavage de cerveau tous les jours. Il n'a pas eu peur parce que David il est connu pour ses méditations, pour être très proche avec Dieu. Donc, quand il était seul avec Dieu, il a repris courage. Il avait l'encouragement de la part de Dieu. Et quand il vient, il dit que qui est ce Philistin pour blasphémer le Dieu d'Israël? Je vais le tuer. Imaginons, est-ce qu'on peut, on peut imaginer cette chose? Et pourquoi David l'a pu faire? Parce que David n'a jamais regardé la grandeur de l'armée philistin, la grandeur de cet homme, son pouvoir ou son valeur. David, il dit que je viens au nom de l'Éternel. Je viens au nom de l'Éternel. C'est pourquoi, c'est, je pense qu'on a besoin de regarder la télé ou écouter le journal, lire le journal. Mais si nous allons concentrer sur ces choses, nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne avec la foi. Et nous serons confus et nous n'aurons pas le courage que nous avons besoin pour vivre notre vie chrétienne dans ce monde. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria. Mais la barque, je ne sais pas combien de personnes sont montées dans une barque, une petite barque de pêcheurs. C'est fait avec des planchers de bois. Le plancher de bois de quelques épaisseur de quelques centimètres, hein, pas plus que ça. Parce que c'est le bois, il flotte. Quand les disciples sont dans la barque, qu'est-ce qu'il protégeait, ses disciples, de la mer, le vent et tout cela? Qu'est-ce qu'il protégeait? Oublions la barque, mais il y a quelques planchers de bois qui protégeaient. C'est tout? Il n'y a pas d'autre chose. Il était en train de flotter à cause de quelques planchers de bois. Mais pourquoi ils n'avaient pas peur là-bas, dans la barque? Et pourquoi ils ont peur de la mer? Pourquoi ils ont eu peur de marcher sur l'eau? Et nous aussi, on a l'assurance pour beaucoup de choses. On a l'assurance pour la vie, on a l'assurance pour la maison, on a l'assurance pour la voiture. On a l'assurance pour beaucoup de choses. Mais si nous avons un petit mot de tête ou nous avons le Doliprane, on a beaucoup de choses dans nos poches, dans la main. Et on pense qu'on est en sécurité. Est-ce que véritablement nous sommes en sécurité? Et qu'est-ce que ça nous garde contre tous ces maux? Mais je pense qu'on devrait réfléchir. La barque, c'est simplement une planche de bois. Vous savez, quand il sentait en sécurité dans la barque, pourquoi il ne peut pas descendre dans l'eau où le Seigneur il était? Il était déjà dans la mer, le Seigneur. Est-ce qu'ils ne seront pas plus en sécurité dans la mer que dans une supportée par des planchers de bois? Quelque part dans le psaume, je pense que le Seigneur, il tient tous les eaux du monde dans le creux de sa main. Je ne sais pas, vous avez peut-être lu, c'est merveilleux. Le Seigneur tient toute l'eau de mer dans le creux de sa main. Il est si grand. Pourquoi nous devrions sentir en sécurité dans le barque et pas dans l'eau où le Seigneur lui-même il était là? Je pense que les amis de Daniel, il avait ce courage. Il sentait plus en sécurité dans la fournaise ardente que dehors avec le roi. Il devrait sentir plus en sécurité car le Seigneur il était là avec eux. Il a montré que même si nous avons lu en Isaïe 42, je crois, si tu marches dans l'eau, rien va. Voilà, vous avez compris. Ou tu peux marcher dans l'eau, hein, aucun danger. Aussi dans le même verset, on trouve que même si tu marches dans le feu, tu crains aucun danger. Et le Seigneur, il était là dans la fournaise ardente. Donc même maintenant, on peut sentir en sécurité si des choses, mais on n'a que des planchers au-dessus de nos têtes. Il n'y a rien d'autre. Si on peut penser que nous sommes en sécurité dans notre maison, et sachez que nous ne sommes pas. Nous sommes seulement en sécurité avec le Seigneur. Il n'y a pas d'autre chose qui peut nous protéger, pour nous garder. Hein? Et vaut mieux habiter dans tes parvis que mille ailleurs. Un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Le miracle se produit lorsque nous sortons de la foi, dans la foi. C'est là que Pierre a pris une décision cruciale. Continuer à lutter dans le bateau de leur fabrication ou se tourner vers Jésus pour obtenir de l'aide et de la consolation. Pierre décida qu'il valait mieux d'être dans une tempête avec Jésus que qui continuerait à faire des choses de la même manière sans lui. Et pour sa foi, Pierre n'a pas seulement pu observer un miracle, il a pu en faire l'expérience de première main en osant sortir du bateau en marchant jusqu'à son Seigneur. Parfois, le plus grand miracle de la vie se produit lorsque nous aussi sommes prêts à sortir dans la foi et nous abandonner à la puissance de Dieu au lieu de compter sur nous-mêmes. Et les disciples, ils comptaient sur leur métier, leur connaissance. Notre connaissance est très limitée. Et compter sur eux-mêmes. Dieu a une façon de séparer les œufs et apaiser les mers quand nous le faisons. La foi exige de la concentration. Pour marcher avec la foi, nous devrions avoir nos yeux fixés sur Jésus, sur Dieu. Pas sur autre chose. Proverbe 3, 4 à 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais bien souvent, notre problème, c'est nous appuyons sur nos connaissances, notre sagesse, notre intelligence, notre logique, notre savoir-faire. Et nous ne faisons pas confiance en Dieu. Et le verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Et quand Jésus il a fait ce miracle de nourrir des milliers de personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons, il n'a pas été connu comme le Fils de Dieu. Même les disciples ils n'ont pas dit que tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc, ils avaient besoin de voir un autre miracle opéré par Jésus. Et ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Malheureusement, oui, Marc écrit qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Leur cœur était endurci. Lorsque nous oublions la bonté de Dieu, oublions ses promesses, oublions le miracle qu'il a déjà accompli dans nos vies, non seulement nous commençons comme Pierre à couler, mais nos tempêtes s'intensifient. L'adoration, cependant, devient l'antidote de l'anxiété et l'inquiétude, à la peur et au doute. Donc, l'adoration devient l'antidote. C'est quoi l'adoration? Hein? Souvent, dans le monde, les gens ils utilisent le mot « je l'adore ». J'adore. Hein. C'est quoi l'adoration? C'est une admiration pour un autre Dieu de comprendre ses attributs, se comprendre son caractère, se comprendre sa beauté, sa fidélité, son amour, sa grâce, sa miséricorde. Et c'est là que l'adoration. Donc, si nous adorons notre Dieu, notre Seigneur, ça devient l'antidote pour la peur, pour la crainte, pour l'inquiétude, pour toute autre chose. Dans ces tempêtes, David se réjouissait dans leur délivrance. Les disciples ont loué Dieu. Quand Dieu est élevé, nos esprits le sont aussi. Sur la mer de Galilée, les disciples de Jésus ont peut-être perdu la foi. Ce ne serait pas la dernière fois qu'ils l'oublieraient. et qui était vraiment Jésus. Cette nuit-là, cependant, quelque chose avait changé. Non seulement ce serait un tournant dans leur perspective de Jésus, mais pour Pierre, sa marche était une expérience qu'il n'oubliera jamais. Il s'avère que le courage, comme la peur, peut devenir contagieux. Il ne fait que croître au fur et à mesure quand il est testé. Et le courage ou la peur, les deux sont contagieux. Nous vivons en tant que le corps de Christ, nous sommes des frères et sœurs, encourageons les uns les autres par la parole du Seigneur, pour encourageons nos frères et sœurs de fixer nos regards sur lui, pas sur nos capacités, ce que nous pouvons faire. Mais nous ne pouvons rien faire. Mais lui, il est capable de tout faire pour nous. Celui qui a donné son Fils unique sur la croix, il donnera toute autre chose pour ses enfants. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette passage que tu nous as laissé dans ta sainte parole. Seigneur, ta parole, elle est vraie, car il décortique nos faiblesses. C'est comme un miroir, nous voyons nous-mêmes dans les disciples, dans la vie de tes disciples, Seigneur. Seigneur, ils doutaient. Nous aussi, Seigneur, parfois nous avons le doute. Nous avons la crainte. Nous avons la crainte d'être abandonnés. Seigneur, mais pardonne-nous. Aide-nous à croire sur toi, sur ta puissance, sur ta personne. Seigneur, augmente notre foi, puisqu'on peut être attaché à toi. Seigneur, écarte toute chose qui peut nous séparer de toi. Que Seigneur, nous restons à toi à jamais. Au nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, nous prions et pour ta seule gloire. Amen.